Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour à toutes et à tous. Son avion vient de toucher terre à l'aéroport de Roissy. Le journaliste Lou Bureau, libéré des prisons turques. Mais combien de nos confrères restent encore derrière les barreaux pour raisons politiques en Turquie? Nous poserons la question à Anne Andlauer. Un référendum d'indépendance aux enjeux multiples au Kurdistan irakien voulu par le président Barzani, refusé par Bagdad. Ce scrutin est l'objet d'un intense marchandage diplomatique, c'est ce que nous verrons. Les élections sénatoriales, c'est dans une semaine en France et la liste pléthorique des candidats compte un nombre record de perdants aux dernières législatives. Opération recyclage d'élus, nous dira Aurélien Colli. Et puis pour les journées du patrimoine, nous irons à La Souterraine dans la Creuse où des salariés en cours de licenciement ont tenté de faire visiter leur usine. Pour défendre leur cause, les CRS sont venus les en empêcher. Des retrouvailles sur le tarmac de Roissy pour Lou Bureau et ses proches. Le journaliste indépendant qui était détenu depuis la fin du mois de juillet en Turquie est donc de retour depuis quelques secondes, quelques minutes en France, après sa libération vendredi et son expulsion par les autorités turques. Une bonne nouvelle qui ne doit pas faire oublier cette autre réalité turque. Plus d'une centaine de journalistes y restent emprisonnés et eux n'auront pas la chance d'avoir des pressions diplomatiques pour les sortir de là. C'est une correspondance depuis Istanbul d'Anne Andlauer.
Sur les réseaux sociaux, dans leurs nombreux messages saluant la libération du français Lou Bureau, les défenseurs de la liberté de la presse en Turquie ajoutent souvent cette mention « N'oubliez pas les autres ». Les autres, ce sont les dizaines de journalistes encore détenus en Turquie, 170 précisément selon la plateforme indépendante P24, qui met à jour un décompte. Ceux-là sont turcs dans leur quasi-totalité et ont été emprisonnés après le coup d'État manqué de juillet 2016 dans leur très grande majorité. Une partie d'entre eux se voit reprocher d'avoir travaillé avant leur fermeture dans des médias proches de l'imam Fethullah Gülen, cerveau désigné de la tentative de putsch. La plupart sont accusés de propagande terroriste, voire d'appartenance à des groupes illégaux tels que le Parti des travailleurs du Kurdistan. Certains, enfin, sont soupçonnés de soutenir plusieurs de ces organisations à la fois, un moyen utile de charger l'acte d'accusation. C'est le cas notamment de plusieurs salariés du quotidien d'opposition Cumhuriyet. Pour presque tous ces journalistes, un procès est en cours ou n'a pas encore commencé. Mais la détention provisoire est désormais la règle en Turquie, une façon d'intimider ceux de leurs collègues qui ne sont pas encore emprisonnés.
Anne Andlauer, Istanbul pour France Culture. Et on le rappelle, Lou Bureau, le journaliste français, reste poursuivi en Turquie pour participation à une organisation terroriste, pour avoir réalisé des reportages auprès de combattants kurdes de Syrie. Cette question kurde, elle est extrêmement sensible, on le voit en Turquie, mais elle est également d'actualité dans le nord de l'Irak. Au Kurdistan irakien, région déjà largement autonome, un référendum d'indépendance doit se tenir le 25 septembre dans une semaine. Bagdad s'y oppose, l'ONU propose sa médiation. Il s'agit en fait de convaincre le président kurde Massoud Barzani de renoncer au scrutin en lui permettant de conforter son pouvoir. C'est en tout cas l'analyse d'Arthur Kenney, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, joint par Sarah Petitbon.
Officiellement, les enjeux sont de l'indépendance du Kurdistan et donc de régler la relation entre le Kurdistan et Bagdad, sachant que derrière, il y a les questions de budget, de répartition des ressources, etc. Officieusement, le référendum a deux points essentiels. Premièrement, c'est un plébiscite pour le président du Kurdistan irakien, Barzani, plébiscite qui doit lui permettre de redonner une légitimité. Deuxièmement, le référendum doit permettre d'asseoir la domination kurde sur les territoires disputés, notamment sur la ville de Kirkuk. Barzani n'a plus de mandat légal pour gouverner. Il a fait deux mandats consécutifs de président. Selon la constitution kurde irakienne, il ne peut pas se représenter. Déjà, il y a 3 ans, la question du référendum avait été présentée par le PDK. Le PDK pensait qu'il pouvait ainsi prolonger la présidence de Barzani. Cependant, la guerre contre l'État islamique avait mis en suspens ce point. La guerre nous a permis de détourner l'attention sur le combat et donc un peu moins sur la crise politique kurde irakienne. Et le PDK cherche, notre parti de Barzani cherche à nouveau à légitimer sa domination. Et donc ce référendum est vraiment important.
Arthur Kenney de l'Institut français du Proche-Orient, spécialiste du Kurdistan. La réconciliation entre Hamas et Fatah en Palestine, un mot que plus personne n'osait prononcer depuis 2013, un mot tout de même qui figure dans un communiqué publié ce matin par l'organisation islamiste, le Hamas, donc qui se dit prêt à restituer son pouvoir sur la bande de Gaza à un gouvernement d'union, gouvernement de réconciliation, donc avec le Fatah du président Abbas. Nous y reviendrons dans le détail dans notre journal de 10h. Les grands électeurs français désigneront dans une semaine maintenant 171 nouveaux sénateurs, soit la moitié de l'hémicycle du Palais du Luxembourg à renouveler. Et sur la liste des candidats, un record, ils sont 1996 sur la ligne de départ pour, on le rappelle, 171 postes. Parmi ces candidats, 45% de femmes. En 2014, elles constituaient 42% des candidatures. Des listes qui comprennent aussi 273 candidats déjà en lice pour les législatives et qui espèrent une seconde chance au sénatorial, Aurélien Colli.
Recyclage, recasage, rattrapage, appelez ça comme vous voulez. Une chose est sûre, jamais une sénatoriale n'a vu autant d'anciens députés ou candidats à la députation se présenter. La faute de La République En Marche avec son raz-de-marée à l'Assemblée nationale en juin qui en a laissé plus d'un sur le carreau. Chez les Républicains et les Socialistes, ils sont ainsi 12 députés sortant du Palais Bourbon à retenter leur chance au Palais du Luxembourg. Jacques Millard, Laurent Baumel, pour citer les plus connus. Jacques Millard qui se présente carrément dans les Yvelines face au président sortant du Sénat, Gérard Larcher, pourtant lui aussi encarté LR. À ces anciens de l'Assemblée, il faut ajouter ceux qui ont tenté d'y entrer en juin dernier sans succès. Ils sont près de 250, dont une quarantaine d'écologistes et surtout 108 frontistes, palme d'or pour le Front National, 108 candidats déjà en lice en juin, dont 41 se présentaient déjà au régional de 2015 et 20 au municipal de 2014. En somme, on prend les mêmes et on recommence à chaque scrutin. C'est logique, ce sont des militants déjà implantés localement, explique un cadre du FN qui admet que le parti n'a pas un vivier de candidats pour chaque élection et que la priorité c'est surtout d'être présent partout, quitte à combler les listes en présentant même 2 députés élus, mais à des places non éligibles.
Aurélien Colli. Derrière la baisse de 5 euros par mois des APL, le gouvernement va en fait modifier le mode de calcul de ces allocations logement. C'est le secrétaire d'État Julien de Normandie qui l'explique dans le journal du dimanche. Les aides dès janvier 2019 seront calculées sur le revenu en cours des allocataires et non plus sur les revenus de 2 ans plus tôt. L'État espère ainsi économiser plus d'un milliard d'euros. Les Journées européennes du patrimoine, 34e édition ce week-end, et elles ne sont pas forcément là où on les attendrait, ces journées. Hier, par exemple, à La Souterraine, dans la Creuse, les salariés en cours de licenciement de l'usine GMS ont tenté de faire visiter leur lieu de travail. Ils en ont été empêchés par un cordon de CRS appelé pour défendre la propriété privée du nouveau patron, la société GMD, qui va supprimer 156 postes sur 276. Un reportage d'Hugo Charpentier.
L'usine est juste là, à quelques pas. Mais entre l'entrée et une trentaine de salariés, des camions de CRS, Didier Soula, 36 ans de boîte, n'a tout simplement jamais vu ça.
C'est quand même impressionnant. Hein. Nous, on faisait ça convivialement, de faire visiter l'usine, le travail. On ne sait même pas si lundi ou mardi, on va reprendre le boulot. Donc, on est en colère. Quoi. Je veux dire, moi, je suis en colère. Parce que j'aime pas. On dirait qu'on nous provoque.
À ses côtés, Nicole, à peine arrivée et qui doit faire demi-tour. Cette dame d'une soixantaine d'années, accompagnée de sa fille et de son petit-fils, aurait aimé visiter l'usine, là où son mari a travaillé pendant 27 ans.
J'estime qu'il a donné sa vie à l'entreprise et qu'aujourd'hui, on nous bloque une usine pour des prétextes de sécurité, or que ce n'est pas vrai.
Une situation très frustrante pour Patrick Brun, délégué syndical CGT.
Il faut qu'on fasse voir notre outil de travail à la population, de leur faire voir pourquoi on se bat, pourquoi on défend... On défend notre job, quoi. C'est toute notre vie, quoi. Donc c'est lamentable. C'était aussi le moyen de faire voir que bah, l'outil de travail, à 120, ça ne marche pas, quoi.
120 emplois conservés sur 277. Le plan social a été validé. Les lettres de licenciement ont été envoyées.
Allez, voilà à présent une application très concrète de ce que pourrait nous apporter l'accord de libre-échange CETA, cet accord entre l'Europe et le Canada, du saumon transgénique dans nos assiettes. C'est la crainte des associations de défense de l'environnement qui rappellent que ce saumon OGM est déjà commercialisé outre-Atlantique. Les explications d'Anne-Laure Barral.
Ses détracteurs l'appellent le Frankenfish, le poisson Frankenstein. C'est le premier animal génétiquement modifié destiné à la consommation humaine. C'est l'entreprise américaine Aqua Bounty Technology qui l'a mis au point en implantant un gène de poisson du Pacifique sur un saumon d'Atlantique. Ce saumon transgénique peut donc grossir 2 fois plus vite et avec beaucoup moins de nourriture. Elle a réussi à en vendre plus de 4,5 millions de tonnes au Canada entre l'été 2016 et 2017. Les Canadiens ont tout de même été surpris d'apprendre qu'ils étaient un peu le marché chez cobaye de cette entreprise. Il faut dire qu'au Canada, rien n'oblige à indiquer sur l'étiquette qu'il s'agit d'OGM, alors qu'en Europe, nous le faisons. Mais pour les associations de consommateurs et environnementales, c'est bien la preuve que nous ne devons pas renoncer à certaines de nos réglementations, comme le prône le CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada. Si ce poisson arrive sur les étals en Europe, il n'aurait pas d'obligation d'étiquetage, sauf qu'en France, il est interdit de commercialiser un animal génétiquement modifié pour la consommation humaine. Enfin, pour l'instant, soufflent les détracteurs du CETA.
Anne-Laure Barral, bon appétit. Un mot de météo enfin, ça reste très frais aujourd'hui pour la saison. Pas plus de 10 degrés, température maximale à Clermont-Ferrand, 14 à Lyon, 15 à Paris et tout de même 20 à Marseille. Le tout sous un soleil qui va encore se charger de nuages pluvieux de la façade atlantique au centre et au Grand Est.